pourquoi faisons-nous la guerre aux Troyens? Et pourquoi le fils d'Atrée est-il venu camper ici? N'est-ce point pour Hélène aux beaux cheveux?
Tout est dans Homère, et voici tout Homère.
D'Hésiode, nous ne savons que ce qu'il nous dit de lui, qu'il a vécu toute sa vie à Ascra, en Béotie, cultivant ses champs dans cette région qu'il n'aimait pas, et faisant le métier d'aède sous l'inspiration des muses héliconiennes. Il dut même un jour s'embarquer pour Chalcis, ce fut sa seule expérience des bateaux, et concourir dans un tournoi poétique où il remporta un prix.
Un hymne me donna la victoire, et je gagnai un trépied à deux anses que je consacrai aux muses de l'Hélicon, dans les lieux mêmes où, pour la première fois, elle m'avait mis sur la route des chants harmonieux.
Ce prix ne nous étonne pas. Les Grecs ont toujours considéré Hésiode comme un de leurs plus grands poètes. Et la légende veut que ce soit sur Homère qu'il ait remporté le prix, parce qu'il célébrait les œuvres de paix.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Deuxième épisode de notre série Tout Homère, Homère et Hésiode, en compagnie d'Anne Wiesmann. Bonjour.
Bonjour.
Tout Homère, c'est un grand volume que Hélène Monsacré nous a déjà présenté hier, publié par Albin Michel et Les Belles Lettres, et dans lequel, avec elle, vous faites la postface. Enfin, c'est pas une conclusion, parce qu'il faut toujours tout laisser ouvert, Hans Wiesmann. Je vous présente comme un helléniste, un philosophe aussi.
Les deux.
Les deux. D'ailleurs, vous avez faussé compagnie, là, aujourd'hui, au déjeuner qui, d'habitude, suit votre séminaire hebdomadaire à l'École des hautes études en sciences sociales et qui célèbre les travaux et les jours avec force vin et mets.
Oui, tout à fait. Pour autant, je ne suis pas mécontent d'être avec vous, et on va essayer d'évoquer nos lointains prédécesseurs qui savaient aussi festoyer.
Alors Hésiode, c'est un contemporain d'Homère ?
Non.
Comment non ?
Non, non, non. Il a vécu au moins 100 ans après lui, mais on ne sait rien de vraiment précis, parce que les anciens, c'est vraiment au début de cette émission qu'il faut dire ça avec force, les anciens ne s'intéressaient pas aux faits, ils s'intéressaient au sens. Et tout ce qu'on raconte sur Hésiode est évidemment un mélange de faits, mais de faits finalement arrangés pour produire un sens. Typiquement, le petit tournoi qui oppose Hésiode à Homère.
Vous voyez bien qu'ils sont contemporains, puisqu'ils ont concouru ensemble.
Mais non, c'est une pure invention, parce que Homère a vécu au moins 100 ans avant Hésiode. Et donc, même cela, on n'en est pas sûr. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des espèces de spéculations qui sont basées sur des renseignements tirés d'auteurs tardifs, en général. Et ces renseignements appartiennent à une sorte de conception de l'histoire qui n'est plus la nôtre. Il s'agissait à l'époque de rendre la raison, pourrait-on dire, de ce qui a été, de manière à lui conférer le maximum de signification. D'où une espèce de rivalité entre les différents historiens, entre guillemets, que Diogène Laërce réunit par exemple dans la vie des philosophes, qui cherche à trouver chaque fois un événement qui ferait plus sens qu'un autre.
Alors le concours entre Homère, ouais, qui est un auteur multiple, et Hésiode, qui est un auteur qui n'est pas contemporain, fait sens. Et là, à l'Ildios, le public et le souverain posent des questions aux deux concurrents, des énigmes ou des questions du genre qu'est-ce qui est le plus beau, qu'est-ce qui est le plus laid. Et puis, on propose à chacun d'entre eux de réciter le plus beau de ses chants. Et alors ?
Eh ben, chacun a une toute autre, autre conception de ce qui est beau, mais beau pas au sens où nous l'entendons. C'est-à-dire, il faut que ce soit aussi conforme à ce qui a été, par la tradition, façonné, transmis, et il y a une forme de soumission aussi à ce qui n'est pas lié à la volonté individuelle. Ce sont des auteurs qui font comme il faut faire.
Alors, Homère chante un chant de guerre, plein de fureur et d'éclat, et Hésiode un chant de paix.
Oui, enfin, chant de paix, c'est plus différent. Il faut comprendre que Hésiode dans les travaux. Parfois, on ajoute les jours, puisque les jours de la vie paysanne, était en conflit avec son frère au sujet d'un héritage, et ce qui le préoccupait, c'était l'intérêt d'un partage. Or, le partage ne va pas de soi dans l'univers des héros, où c'est le plus fort qui s'approprie tout. Et donc, ce que Hésiode essaye, par une sorte de raisonnement approfondi, rendre plausible, c'est l'abandon du mode héroïque, où le plus fort s'approprie tout. Et il a cette phrase extraordinaire, « La moitié vaut plus que le tout ». C'est la phrase hésiodique par excellence. Pourquoi ? Parce que la moitié nous incite à vouloir réaliser le tout, et du coup en créer. Et c'est donc l'agriculture qui va remplacer les razzias.
Les travaux et les jours, c'est donc un des deux grands ouvrages d'Hésiode et qui se présente un peu sous la forme d'un calendrier, en vantant d'ailleurs l'austérité de l'hiver dans lequel
enfin,
nous sommes
aujourd'hui.
C'est
la deuxième partie, parce que la première partie, c'est plutôt la partie où il y a une sorte de critique du comportement de son frère qui veut garder tout l'héritage. Et Hésiode plaide pour qu'il partage. Et il faut pour nous quand même expliquer que l'idée d'une division qui serait plus profitable que le tout qu'on s'approprie, eh bien, c'est une idée qu'il fallait à l'époque justifier.
Mais on a dit que c'était une sorte de réponse à la crise agraire du moment où de grands propriétaires mettaient la main sur les possessions des petits paysans.
Alors là, vous avez tout le 19e siècle qui, rétrospectivement, fabrique de l'histoire. On est dans la fabrique de l'histoire. Alors que si on fait une interprétation qui est donc herméneutique, interne au texte, et qui est la seule qui nous met en présence d'une réalité réelle, puisque c'est les textes que Hésiode a composés. Et bien là, on découvre qu'il s'agit d'un problème intellectuel et pas du tout social. Et ce problème intellectuel, je pense que ce n'est même pas quelque chose qui matériellement doit être expliqué ou justifié par l'appât du gain. Ce sont des idées qui s'affrontent. Et Hésiode, fidèle à la problématique qui apparaît avec Homère, ça c'est la razzia, les Grecs s'approprient tout ce qui est autour d'Homère, de Troie était accessible. Hein. Et bien Hésiode dit non, l'agriculture, et c'est pas parce qu'il y a le gros propriétaire, etc., peut-être, non, il dit l'agriculture est une manière de faire profiter la moitié pour qu'elle devienne un tout qui dépasse le tout initial. Voilà l'idée.
Le Hésiode des travaux et des jours, selon notre maître à tous, Jean-Pierre Vernant.
En même temps qu'il y a cette bataille sur le monde humain, les dieux sont dedans en même temps mêlés. Et en même temps qu'il y a ces deux plans, les hommes, les dieux, qui sont toujours à la fois séparés et présents ensemble, il y a autre chose, qui est le monde de la paix. Et c'est le rôle des comparaisons et des métaphores. C'est en même temps continuellement ce qu'on voit, c'est les bêtes, les oiseaux dans le ciel qui se promènent, c'est les fleuves, les mers, les orages, les cieux qui s'ouvrent, les vendanges, les blés, tout l'univers campagnard ou l'univers maritime est rendu de la façon la plus saisissante. À chaque moment du poème, il est présent.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Homère et Hésiode avec Hans Wiesmann. Pourquoi ne pas illustrer le cycle des jours par le carnaval des animaux, au fond, sous la direction de Zubin Mehta. L'autre grande œuvre d'Hésiode, c'est la Théogonie, qui est à la fois un essai de généalogie des dieux et un récit de la création du monde. Comment un monde ordonné peut-il surgir du chaos ?
On a le même problème que dans les travaux qui s'appellent bien travaux, parce qu'il s'agit de travailler au lieu de faire la guerre pour s'approprier ce qu'on convoite. Eh bien, la théogonie traite du même sujet, simplement à une échelle infiniment plus grande, puisque c'est celle de l'avènement du cosmos et de la manière dont les dieux seront amenés à se partager le monde. Le vrai sujet d'Hésiode, c'est le partage, là aussi. Car à l'origine s'affrontent deux puissances, ciel et terre. L'une, c'est la totalité, ciel, qui embrasse tout, et terre, qui, féminine, se dérobe. Et les naissances que celle produit à l'intérieur de la terre, dans les grottes, les cavernes, ne peuvent pas voir le jour. Et le vrai problème qui se pose dès le départ, c'est à quel titre peut-on créer un espace intermédiaire dans lequel règne ni l'identité totalisante, ni la différence qui se dérobe. Alors là, on connaît l'histoire. Terre arme le bras de Cronos, son premier fils, d'une serpe. Il châtre son père et en hurlant, le ciel se retire. Il ouvre un espace qui est l'espace dans lequel s'engouffrent les naissances. C'est ce qu'on appelle un mythe de séparation. Or, le mythe de séparation va se répéter dans l'histoire de la théogonie, puisque Cronos, qui a libéré ses frères et ses sœurs, il va avaler ses enfants, et parce qu'il veut faire comme le Père Ciel. Et pour faire court, Zeus, un de ses fils que sa mère Rhea a dérobé à son père en lui présentant dans les langes une pierre que donc le père avale sans s'en apercevoir, eh bien, ce fils Zeus, il va, dans une lutte que je ne vais pas évoquer ici, mais qui est absolument extraordinaire, contre les titans, la génération des parents, il va arriver à devenir lui-même le potentat absolu. Et c'est là que la Terre lui dit, si tu ne veux pas que ça recommence, eh ben partage le monde avec tes frères et tes sœurs. C'est comme ça, c'est le but de la théogonie.
C'est comme ça qu'une souveraineté juste peut être établie.
Exactement. En intégrant le différent, la différence dans le même.
Alors revenons maintenant à notre compère Homère. Nous sommes dans le chant 15 de l'Iliade, dans la traduction de Pierre Judet de Lacombe, qui figure dans l'ensemble tout Homère, le livre dont nous parlons, Albin Michel, Les Belles Lettres. Les Troyens sont bousculés, Hector, le fils de leur roi Priam, est à terre, et à cette vue, Zeus, le père des dieux et des hommes, appelle Héra au bras blanc, et la vie Iris au pied de Bourrasque. Il faut que Poséidon fasse cesser les combats, ces batailles tragiques, et voici le discours que tient à Poséidon l'ébranleur de la terre, Iris.
Dieu a la chevelure de Sion qui tire la terre. Le message que je t'apporte vient de Zeus qui tient l'égide. Il te commande de cesser combats et batailles et de rejoindre les tribus des dieux ou l'eau de la mer divine. Si tu ne veux pas obéir à ses mots, mais les comptes pour rien, il menace de te faire la guerre en personne, force contre force, en venant ici même, et t'engage à te dérober à ses coups, car il prétend te surpasser de beaucoup par la force et te devancer par la naissance. Mais ton cœur n'est pas troublé de parler en égal avec lui, qui en terrifie tant d'autres. L'illustre dieu, qui secoue la terre, lui dit, très indigné.
Malheur ! Il a grande valeur, mais à parler au-delà des bornes, puisque moi, qui ai honneur égal, il veut me contenir de force malgré moi. Nous sommes trois frères nés de Cronos, que Rhea a mis au monde. Zeus, moi et en troisième Hadès, qui règne sur ceux d'en bas. Toutes les choses ont été partagées en trois. Chacun a eu son lot d'honneur. Moi, j'ai gagné d'habiter pour toujours la mer grise, une fois les sorts agités. Hadès a gagné les ténèbres brumeuses. Zeus, le vaste ciel dans l'éther et les nuages. La terre, quant à elle, est commune à tous, ainsi que le grand Olympe. Je ne vivrai donc pas selon le cœur de Zeus. Qu'il reste tranquille, malgré sa force, dans le troisième lot qui est le sien.
Toujours le thème du partage, chacun a eu son lot d'honneur, et Poséidon dit que Zeus reste dans le sien. Hans Wiesmann.
Oui, on voit très bien, et c'est un problème pour l'historien, que Homère connaît parfaitement la conclusion de la théogonie d'Hésiode.
C'est embêtant pour quelqu'un qui est né avant lui. Mais enfin, sans doute Hésiode se préparait-il avant Hésiode.
Il devait y avoir avant Hésiode, c'est pour ça que je dis que finalement ces poètes-là n'inventent pas comme un écrivain contemporain. Ils se coulent dans un moule pour ensuite faire évoluer les choses. Et donc Hésiode, évidemment, hérite déjà de mythologies qui ne sont pas que des mythes. Les mythes racontent une cause qui aurait produit tel prophète, tel effet. Tandis que les mythologies mettent en système les causes, essayent de réunir les chaînes causales. Et ce que font déjà avant Hésiode des auteurs perdus. Or, Homère les connaissait. Et donc, on a là un exemple frappant de la manière dont Homère se sert de quelque chose qui, en principe, va suivre seulement, pour en déjouer les effets. Et si je peux formuler en une phrase en quoi que ça consiste, c'est que chez Hésiode, l'apaisement vient de la régularité qui s'instaure progressivement grâce à la suppression des affrontements premiers. Je disais le ciel et la terre, le même et l'autre. Peu à peu, on crée un univers où il y a une grande diversité de légitimité. Et cette diversité crée une sorte d'équilibre, et cet équilibre s'appelle la paix. Alors, ce que Homère fait, il fait allusion à cela, mais dans un contexte dans lequel la bataille fait rage. Et quand Zeus dit à Poséidon qu'il ne doit pas intervenir, et Poséidon libre, pour qui te prends-tu, parce que tu as partagé avec moi, et donc je suis ton égal, et puis arrête, eh bien, le conflit entre Zeus et Poséidon, c'est le conflit que les hommes vivent sur le champ de bataille, puisqu'ils s'affrontent d'une certaine manière pour les dieux qui sont leurs garants, qui sont leurs soutiens. Et il y a un mélange extraordinaire chez Homère entre les batailles divines et les batailles humaines. C'est ça le sens de cette affaire, et Homère donne un sens, je dirais, ironique, presque comique, à cet affrontement entre Zeus et Poséidon, parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé à Troie.
Mais Homère, il introduit pas seulement de l'ironie ou de l'humour, il introduit du mouvement, parce que au fond, s'il était tout le temps chez Hésiode, Zeus s'ennuierait dans cette logique.
À mort. Et d'ailleurs, Hésiode en était conscient. Parce que dans la Théogonie, on a un hymne à Hécate. Hécate est la déesse de la lune, c'est la fille d'un titan, c'est-à-dire la génération que Zeus a combattue avec les Olympiens et qu'il a vaincue. Et cette Hécate, comme la lune, elle est d'humeur changeante, c'est-à-dire elle fait tout le temps le contraire de ce qu'elle vient de faire. Par exemple, elle peut permettre à un pêcheur de ramasser énormément de poissons, et au dernier moment, elle casse le filet et tout se perd. Ce genre de choses, elle est, disons, frivole. Et Zeus, qui vit dans l'ordre qu'il a lui-même instauré, et sur lequel il veille avec la foudre, en empêchant toute transgression de frontières, c'est à ça que sert la foudre, c'est plus une arme d'attaque, c'est une arme de défense. Eh bien, il ne peut pas s'empêcher de tomber amoureux de cette déesse changeante, parce que la séduction est liée à l'altérité et pas à l'identité. À l'intérieur d'Hésiode, on a donc le problème qu'on retrouve de multiples manières dans les poèmes d'Homère.
Mais si je comprends bien, comprenne qui pourra. Hésiode connaît la légende d'Homère et Homère est informé d'Hésiode avant qu'Hésiode ne soit là. Hésiode se nomme et Homère ne se nomme jamais.
Oui, c'est ça la vraie coupure, et c'est cela qui permet de dire que Hésiode est postérieur à Homère. C'est une raison, parce que pendant très longtemps, à l'époque archaïque, les poètes qui appartenaient à des corporations, qui étaient probablement divisés en plusieurs tendances, etc., ne se considéraient pas individuellement comme dépositaires de cet héritage qui était les chants que l'on reproduisait à l'occasion de fêtes, par exemple religieuses surtout. Et ce qui est si intéressant, c'est que quand Hésiode invoque les muses, il dit que les muses s'est adressé à moi, Hésiode. Il se nomme et m'ont chargé d'eux. alors que jamais Homère ne revendique cette espèce d'attribution personnelle du chant comme s'il était le sien. Dans le cas d'Hésiode, la chose est ambiguë, puisque c'est le chant que les muses produisent, mais elles ordonnent à Hésiode de le chanter.
C'est-à-dire que Homère est multiple et Hésiode, c'est un sujet unique.
C'est la préfiguration du sujet moderne. Ce n'est pas encore un sujet moderne, bien sûr, mais c'est la préfiguration d'une longue histoire, et c'est ça la philosophie qui va embrayer, où on se pose la question si ce qu'il y a de plus réel n'est pas l'un, c'est-à-dire la chose unique. Or, l'individu qui est l'auteur est d'une certaine manière le garant, en tant qu'identité de projet, de ce qu'il va produire comme chant.
Hésiode préfigure la philosophie, et Homère, c'est la poésie, toujours la poésie au carré, dites-vous.
Oui, c'est une poésie même réactive, dans la mesure où Homère, on l'a vu, connaît très bien la mise en ordre du monde par les réflexions hésiodiques, mais il déchaîne la guerre d'une certaine manière, poétiquement, contre cette espèce de réduction pacifique qui fait que finalement, quelque chose se perd, qui est profondément lié à la bizarrerie, le côté bigarré de l'existence. Chez Hésiode, les choses rentrent dans l'ordre.
Mais l'existence, elle est multiple. On va prendre un exemple, si vous le voulez bien, en se référant de nouveau à notre maître à tous, je veux dire Jean-Pierre Vernant. L'exemple, c'est celui d'Achille.
L'Iliade, c'est l'histoire. Le centre de l'histoire, c'est l'histoire d'Achille. C'est-à-dire d'un être dont toute la vie est située entre une sorte de quelque chose qu'on peut aussi bien appeler un choix décisif qu'il va faire ou qu'il va endosser et un destin qui lui est imposé. Le choix est le suivant. Ou bien il vit d'une vie normale, heureuse, avec femme, enfant, ses parents, pour mourir dans son lit, entouré par ses arrière-petits-fils. Beaucoup de bonheur, une vie longue et une absence totale de gloire. Ça veut dire quoi? Qu'une fois qu'il est mort, c'est comme s'il n'avait jamais été. Ou bien, s'il veut exister toujours, avoir une gloire, une renommée éternelle. Dans la mémoire de toutes les générations, pendant des millénaires, y compris au XXe siècle, au Ve siècle athénien, que les vivants eux-mêmes. Pour avoir ça, il faut qu'ils choisissent la vie brève. Il faut qu'ils soient fauchés dans la fleur de l'âge. Qu'ils meurent à la guerre dans la fleur de l'âge. C'est ça l'histoire de l'Iliade.
Et le pauvre Achille, je veux dire le glorieux Achille, quand il se retrouve dans l'Hadès, après sa vie brève, il a bien sûr la gloire éternelle qui lui est assurée, mais il se dit dans l'Hadès, bah, j'aurais été garçon de ferme, ça aurait été mieux, non?
Absolument, quand Ulysse rend visite aux ombres, aux âmes des morts, dans la Nécuia, il entre autres, il rencontre aussi Achille, et Achille lui dit cela. Eh bien, ça montre bien que, finalement, et ça c'est, je trouve, l'intérêt particulier de la poésie homérique, que tous les possibles sont toujours mobilisés. Toute situation peut basculer d'un côté ou de l'autre. Toute considération peut être inversée. Et du point de vue de la philosophie naissante, c'est un défaut. Puisqu'on essaie de mettre en règle les raisonnements, les descriptions du réel, même l'ordre divin, il ne doit pas qu'il soit contradictoire. Alors que dans la poésie homérique, et Achille est un joli exemple, mais Zeus lui-même dans l'Iliade, c'est pas ce qu'il veut. Alors que dès le départ, on dit que tout ça, c'est arrivé par la volonté de Zeus. Ça, c'est le début. Mais à un certain moment dans le poème, Zeus est là, il regarde le champ de bataille, il commence même à pleurer parce que ce qu'il a des idées, ça ne lui fait pas plaisir. Parce que les Troyens, il les préfère aux Grecs. Et donc, il y a là quelque chose qui ouvre un éventail infini d'émotions, d'identifications, de possibilités d'existence que la réduction opérée par le grand penseur qui était Hésiode et que les philosophes vont prolonger, eh bien, élimine.
On va prendre un autre exemple, parce que si Zeus lui-même ne sait pas exactement ce qu'il veut, vous pensez bien que Ulysse, dont il est question de son retour. Il ne sait pas non plus ce qu'il veut, il est toujours à côté de lui-même, Ulysse.
Mais Ulysse est tout le temps ailleurs. Hein. C'est-à-dire, ce qui constitue son identité, c'est un ailleurs qui est d'une certaine manière circulaire, parce qu'il va jusqu'au, dans l'Iliade, il va jusqu'au paroxysme de la guerre, il contribue à mettre fin à la guerre, mais ce que j'appelais tout à l'heure l'attrait de l'altérité, cette fécondité qui fait que le même ne s'impose pas de manière absolue, eh bien, Ulysse le vit. On l'appelle d'ailleurs Polutropos. C'est lui qui est tourné de beaucoup de côtés. Dans les voyages qu'il fait pour rentrer, il parcourt d'une certaine manière des facettes d'une existence possible. Il ne faut pas s'imaginer que ce qu'il vit chez Calypso, chez Circé, ou les sirènes, et nul n'est non avenu. Tout ça, c'est d'une certaine manière engrangé, et il l'emporte avec lui quand il rentre. S'il ne rentrait pas, s'il n'avait pas ce désir de rentrer, il n'aurait pas du tout connu toutes ses aventures, puisqu'il serait resté avec la déesse Calypso, et il aurait eu l'immortalité, mais il n'aurait pas eu cette vie riche. Or, c'est un paradoxe logique extraordinaire. Quelqu'un qui veut rentrer chez lui va, de ce fait, rencontrer plusieurs vies, et il va les cumuler.
Moi, je vais vous dire, hein, vous faites la postface de ce gros volume, tout Homère, et bien tout ça, ça ne se tient pas.
C'est, en un sens, si on applique les critères qui sont les nôtres, l'Iliade est un fourre-tout improbable. Mais il s'en dégage quelque chose comme une vérité poétique qui peut être définie comme une manière d'épuiser les possibles de l'existence, qu'elle soit humaine ou divine.
Tout Homère, c'est chez Albin Michel et aux belles lettres. Fabrice Drouel vient d'entrer. Bonjour Fabrice. Vous pouvez lui raconter l'histoire de Berlin pendant votre enfance, Hans Winsmann. Vous avez dû fuir Berlin, c'était la fin de la guerre. Et dans votre besace, il y avait
j'avais
un livre de nourriture et un livre de mythologie grecque.
Il y avait un kilo de petits pois, alors, deux livres disons. Il y avait les mythes grecs traduits par un romantique allemand, Gustav Schwab, qui faisait à l'époque d'ailleurs figure de cadeau de Noël idéal. C'est comme le tout Homère, moi je trouve que c'est un cadeau de Noël absolument indiqué.
Oui,
il n'y a pas mieux.
Et alors
je suis parti avec ça, et à travers champs, ça a duré des semaines, on a fui les fronts, et on a fini par être pris dans une colonne de Prussiens de l'Est, qui, avec leurs charrettes remplies d'édredons, de machins, des refus. Il y avait aussi les Français qui avaient servi de garçons de ferme, qui étaient donc au travail obligatoire.
L'STO.
L'STO. Et donc, l'un de ces Français, qui était très très bien avec les gens chez lesquels pendant 3 ans il avait travaillé, il rentrait chez lui et il m'a dit « Il faut quand même que j'emporte un souvenir. » Or, je n'emporte rien, puisqu'on fuit sans rien.
Vous lui avez donné le livre de mythologie.
Je lui ai donné le livre et j'ai pleuré. Et lui a pleuré aussi. Et ça, c'était pour moi la première réconciliation réelle qui a eu lieu dans mon existence.
Et puis, après ce choix difficile, la récompense est venue, puisque la mythologie grecque vous a rejoint. Cette émission était préparée par Frédéric Martin, avec à la technique Arthur Le Breton. La réalisation, c'était Audrey Ripouille. Chez vous, Fabrice.
Eh bien, long combat pour la vérité sur la mort de Robert Boulin. L'effet remonte à 40 ans maintenant, et sa fille, Fabienne Boulin-Burja, depuis des années, mène ce combat. Elle sera notre invité.